Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Regarde, c'est notre maison.
Oui, notre maison.
Gay!
Ok, je suis là.
Nom de Dieu, alors ça, j'y crois pas.
Kate!
Personne vous l'a dit?
Les derniers propriétaires, ils ont été tués dans cette maison.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale, on va l'appeler comme ça, renouveau du cinéma de genre français. Alors on va parler de plusieurs films, à savoir Chanson douce de Lucie Borloteau, qui est disponible chez Studio Canal, Fury d'Olivier Abou, qui est disponible en VOD là, sur Canal Plus à la demande. Il n'y a pas d'édition Blu-ray DVD pour l'instant. The Room de Christian Volkmann, qui est disponible chez Condor Entertainment. Un vrai bonhomme de Benjamin Parent, qui est sorti chez Ad Vitam. Adoration de Fabrice Duvels. Alors, franco-belge, on a un peu triché hein, quand même. Hein. Dispo normalement chez Coming Soon, je crois. Zombie Child de Bertrand Bonello, qui est disponible aussi chez Ad Vitam. La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher. Disponible chez Blackout. Alors on va essayer de parler de tout ça, on va voir si on a le temps de parler de tous ces films. Et pour causer de tous ces films, pour causer cinéma de genre français, bah, je suis accompagné de celui qui a eu l'idée de cette émission, un de nos anciens chroniqueurs qui tout à coup a frappé à la porte et nous a dit « Les gars, j'aimerais beaucoup revenir faire une émission sur le cinéma de genre français car je trouve que ces dernières années, on n'en parle pas assez et il y a plein de choses qui se font et plein de réalisateurs qui tentent des trucs, et ma foi, c'est intéressant. Et cet ancien chroniqueur n'est autre que Christophe Cozens, alias Coco, le big boss d'Extasy au film. Alors je rappelle le site, hein, the-extasy-off-film.com, voilà, si vous voulez acheter plein de super bons Blu-ray DVD. Salut Christophe!
Ouais, salut Jérôme. Bah bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Hein. Je sais pas si les chroniqueurs habituels sont bien là, mais ouais, vous m'avez ouvert la porte tel un vampire. Je suis rentré dans la tanière pour vous proposer des sujets bien croustillants, les amis.
Alors nous allons croustiller ensemble. Alors, nous allons croustiller avec Damien Demey. Lui, il est surnommé la bête noire de Compiègne. C'est un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Nous allons également croustiller avec un loup-garou picard qui, bon, les nuits de pleine lune, lui aussi, il croustille ses victimes. Hein, voilà. Il s'appelle bien sûr Thomas Roland et il enregistre régulièrement à l'écoute du cinéma, diffusé sur Radio Campus Amiens. Quoique à l'écoute du cinéma, en ce moment, ce n'est pas simple, vu que les salles de cinéma sont fermées au moment où on enregistre l'émission. Voilà, alors salut mon ami Thomas. Qui va, je crois, se faire un malin plaisir aujourd'hui à nous dire combien il aime le cinéma de genre français.
Salut Gégé, salut Coco, salut Damien et bien évidemment, salut à toutes. Et oui, je vais moi aussi dire à quel point j'aime le cinéma de genre français, surtout des films tels que La nuit a dévoré le monde ou encore The Room.
Ah, nous avons hâte d'y être. Hein. On sent la passion poindre chez Thomas. On sent l'envie de défendre des films. Voilà. On sent l'amour du cinéma. Alors, on va commencer. Alors, bon, on peut dire quand même qu'à un moment, en 2016, on a failli y croire quand on a vu Grave de Julia Ducournau qui est arrivé. On aurait pu espérer un renouveau du cinéma de genre français. On rappelle que Julia Ducournau était venue hein, dans notre émission parler de ce film avec les deux actrices principales, film qu'on avait découvert au festival du film fantastique de Gérard May, qu'on avait adoré, et c'était une super rencontre. Et le film était vraiment excellent. Il est toujours excellent, d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un excellent film. Et donc, bon, malheureusement, ça n'a pas beaucoup inspiré les producteurs, visiblement, ça n'a pas pourtant la nomination au César, tout ça n'a rien fait. On est resté dans une situation toujours un peu compliquée pour le cinéma de genre en France. Et toutefois, ces dernières années, on a pu constater malgré tout une recrudescence de films de genre. Alors je ne parle pas des comédies poussives hein, qui envahissent les écrans français chaque semaine, hors période Covid, hein, je le répète, parce que bon, en ce moment, même une comédie poussive... ça nous ferait peut-être plaisir de l'avoir dans une salle de cinéma, mais bon, voilà. Alors, on va commencer par un film, bon, je ne vous cache pas qu'il divise un peu la rédaction, hein, c'est Chanson douce de Lucie Borloteau. Alors, Chanson douce, c'est un film donc, qui est sorti en 2019, hein, et c'est l'adaptation du Goncourt du livre du éponyme hein, de Leïla Slimani, et qui raconte donc l'histoire de Myriam, qui est interprétée par Leïla Bekti, qui est mère de deux enfants et qui décide de reprendre son emploi au sein d'un cabinet d'avocats. Et le couple se met à rechercher une nounou. Hein, et, bon, il y a plusieurs nounous qui passent. Il y a des moments cocasses, d'ailleurs, dans les auditions de nounous. Et puis, tout à coup, il rencontre Louise. Alors, Louise, qui est interprétée par Karine Viard. Il rencontre Louise et petit à petit, cette nounou va devenir un élément central de la famille. Et on va découvrir son comportement parfois étrange, parfois bizarre. Et puis voilà, quoi, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais laisser la parole à mes chroniqueurs.
Après avoir vu Fury, dont on parlait tout à l'heure, j'ai vu Chanson douce et je trouvais qu'il y avait des thématiques assez qui se rapprochaient énormément. Et c'est vrai qu'avant quoi, je savais pas du tout que c'était une adaptation, quoi, parce que c'est vrai que le film est passé, je trouve, un petit peu inaperçu. Je crois qu'il est sorti dernier trimestre de 2019. C'est vrai que bon, comme l'a dit Gégé, la période n'est pas non plus très 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 gaie. Donc du coup, c'est vrai que le film est un peu pesant, quoi. Cette histoire de nounou qui se dévoile petit à petit. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une étude un petit peu de la société actuelle, d'une administration qu'on retrouve assez souvent dans le cinéma fantastique aussi, d'une administration avec énormément de dysfonctionnements et qui crée finalement des monstres qui est dans ce cadre-là, la nounou qui se dévoile, c'est un peu finalement la petite blague que je faisais au début dans le genre l'essai du film Morse, quoi. Laissez-moi rentrer, voilà, quoi. C'est vrai que finalement, il faut rentrer une personne qui est la nounou, qui est Karine Viard, dans le couple. Et ce couple, c'est ce qui fait aussi dans toutes les thématiques qu'on va pratiquement aborder, c'est que c'est un couple qui est finalement en crise. Et cette personne extérieure qui est Karine Viard pour garder les enfants, finalement, on se dévoile être. Ça monte crescendo, en fait, qui se dévoile être un peu quelque part une psycho-killer, quoi, un peu dans le genre des grands films comme Henri Portrait d'un tueur en série, mais quelque part un peu moins hard. C'est, disons que c'est plus un drame psychologique où on voit qu'une nounou. La nounou arrive et on voit qu'elle a il y a une lutte, une confrontation de classe entre un couple assez jeune et une nounou qui est assez un peu vieillotte. Il y a des exemples dans le film, c'est par exemple, il faut pas il faut pas gâcher, les yaourts faut les manger jusqu'à la fin, ce qui n'est pas le cas d'un couple un petit peu bourgeois, un peu bobo qui est dans le monde de la musique. Et ça traite également d'un sujet qui est assez dans le cinéma fantastique et qu'on retrouve tout au long depuis les années 50, c'est le rôle et la place de la femme finalement dans le couple, qui est à se poser des questions. Savoir est-ce que la femme peut travailler sans créer un dysfonctionnement dans le couple et sans faire rentrer une nounou qui quelque part est un peu psychopathe. Et on voit l'évolution avec des grosses scènes qui parlent finalement des peurs, des angoisses, des phobies chez l'enfant et chez l'adolescent. Et j'ai trouvé que c'était un sujet vraiment très social, quoi, comme une radiographie finalement de cette administration qui crée des monstres, qui après, voilà, parce que bon, il y a pas de secret, c'est qu'on découvre, voilà, qu'il y a une forme de psychologie de la nounou qui commence à un peu déteindre en fait sur les parents et tout, parce que voilà, petit à petit, elle commence à avoir une emprise sur le couple, une emprise sur les enfants. On le voit à travers de pas mal de choses. Et elles sont petit à petit dans la folie jusqu'à arriver à l'impensable au niveau des enfants et tout. Mais voilà, quoi, moi j'ai adoré. Pour moi, c'est une des grosses surprises, ce film. Je vais laisser maintenant la parole à mes amis pour voir un petit peu, mais je crois qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec moi sur le sujet. Tirez pas sur l'ambulance,
j'allais dire. Non. Après, oui, il y a des thèmes communs qu'on retrouve. Alors, le côté kafkaïen aussi, peut-être un peu, que je trouvais plus prégnant dans Fury, dont on parlera après. Et il y a l'aspect lutte des classes qui est présent. Voilà. Après, la différence avec le livre, que moi j'aime beaucoup, le livre, on débute par la fin, en fait. Voilà. Donc, c'est une grosse différence avec le film, du coup. Mais après, c'est pas gênant plus que ça. Alors, mais il est effectivement question de lutte des classes. Ces gens qui sont des bobos sont un peu déplorables. En fait, d'ailleurs, ils sont pas très open. Le mari veut pas que sa femme retravaille. En vérité, ils font un peu de la charité avec cette nounou. Hein. À un moment, ils s'échangent des textos. Ouais. Elle est à côté. Ils font comme si elle n'existait pas. Ils sont méprisants sans s'en rendre compte. Je veux dire, ils sont en marche en fait un peu quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'ils aiment les pauvres, mais en les méprisant en même temps. Quoi. Voilà, ils leur parlent, mais ils les méprisent en même temps. Et puis c'est aussi un film. Mais comme Fury aussi d'ailleurs, hein, il partage ça avec Fury sur la frustration sexuelle. Hein. Voilà, il y a une question de désir, de frustration sexuelle. Le personnage de Karine Viard, c'est une femme frustrée. Voilà. Alors après, moi, le film, j'ai beaucoup de réserves. Je suis pas très. L'esthétique me parle pas beaucoup. Je trouve la photo terne, ça me parle pas. J'aime pas cette manière de rester comme ça, proche du quotidien. La mise en scène, parfois, elle a des velléités hein, de mise en scène, hein, des mouvements de caméra élégants et tout ça et tout. Mais j'aime vraiment pas cette photo. Et surtout, je trouve que Karine Viard est un peu en roue libre. Voilà, moi, je trouve qu'elle n'est pas bien dirigée. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Hein. Elle a beaucoup tenu de films sur ses épaules. Hein, de toute façon, hein, Karine Viard est très talentueuse. Et là, je trouve que, sans être mauvaise, hein, je trouve juste qu'il y a des scènes qui auraient dû être coupées. Enfin, je trouve qu'il y a des choix du metteur en scène, là, enfin, de la metteur en scène, pardon, qui, à un moment, on aurait dû couper des plans, enlever des plans. Enfin, voilà. Moi, je retiens une scène, par contre. C'est la scène qui, pour le coup, est hyper glauque, où elle emmène les gamins bouffer, quoi. Voilà. Et cette scène, elle est centrale. On dit toujours que les scènes de repas sont centrales, en particulier dans le cinéma français. Hein, de Chabrol à Sauté, hein, voilà, la scène de bouffe, c'est quelque chose. Et bien, cette scène de bouffe, très glauque, où elle emmène ses gamins, en fait, dans une sorte ils sont inadaptés au lieu, quoi, dans une sorte de kebab, enfin, je sais pas, une sorte de PMU kebab, je sais pas trop, mais un truc, en tout cas, on n'a pas envie de passer le réveillon dans ce bouche, quoi, voilà. Et je trouve que cette scène-là, moi, elle m'a marqué, mais pour le reste, j'ai beaucoup de réserves sur le film qui m'a pas emballé plus que ça, voilà. Je suis pas fan de la photo et je trouve les acteurs un peu en roue libre, voilà. Pour moi, c'est deux défauts qui handicapent le film.
Alors, moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller.
Non, j'y vais. Pardon.
Moi, j'ai beaucoup apprécié le film et je trouve ça intéressant que tu parles de Phototerne parce qu'en fait, on fait des comparaisons avec Fury de Peter, mais j'y pense là. C'est que la plupart des films dont on va parler, en fait, reprennent beaucoup l'esthétique du film, du drame français qui a toujours une couleur terne. Et c'est au fur et à mesure du film que s'opère finalement un glissement vers ce côté un peu plus, du coup, genre de cinéma français. Comme cette émission, et c'est un truc qu'on retrouve dans Chanson douce avec finalement ce début de couple avec la femme qui veut travailler et récupérer sa vie, l'engagement de la nounou. Dès le départ, on sent qu'il y a un truc qui cloche au fur et à mesure. Il y a vraiment un basculement qui se fait, et c'est intéressant parce que de la façon dont c'est fait, ça m'a fait assez penser au film asiatique. La même année, on a eu Parasite qui avait un peu l'idée, justement. Bon, c'est une classe différente, mais on retrouve.
C'est un peu mieux Parasite.
Ouais. Mais on retrouve justement l'idée de finalement de ce peuple, comme tu disais, l'idée classe qui va se retrouver en fait à travailler à des gens qui ont une certaine richesse. Et pour rester dans la thématique justement des films asiatiques, c'est un peu aussi le côté de l'éveil féminin. Par exemple, Ring, l'une des menaces qui pèse, c'est finalement cette mère qui veut reprendre le travail et qui en fait va se concentrer sur son travail plus que sur son enfant qui va apporter la crise. Et c'est un truc qu'on retrouve également dans Chanson douce, d'autant plus que le titre fait référence finalement à cette comptine qui se veut l'idée d'une mère protectrice et constamment omniprésente. Et je trouve au contraire que Karine Viard en roue libre justement a fait tout le charme, enfin pas totalement en roue libre, mais a fait beaucoup du charme du film et elle apporte toute cette folie qui croit au fur et à mesure dans le film.
Pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Je l'ai regardé sur les conseils de Coco un dimanche après-midi pour avoir la pêche le dimanche soir après. J'étais plutôt une bonne surprise, même si j'ai des réserves sur le film. Je trouve que la mise en scène, elle est assez inégale en fait. Notamment, moi, le début m'a fait très peur. J'ai vu quand même des plans de films français communs, etc. La façon dont c'est cadré, dont c'est filmé. Je trouve que le début... apparemment c'est différent du roman, moi je n'ai pas lu le roman, hein. Apparemment c'est différent du roman, mais en même temps le début, je trouve qu'il est téléphoné par rapport à la fin. Je trouve que là c'est pas fin. Je trouve que le film est intéressant sur plusieurs points, notamment sur le fait, comme tu l'as dit Damien, par rapport à la place du travail. En fait, c'est une thématique qu'on voit beaucoup dans beaucoup de films maintenant, notamment dans un film américain que j'ai regardé récemment, Enragé, qui parle un peu de ça, de la place du travail dans la famille. Alors maintenant, il y a un fossé entre le travail et la famille, et je trouve que c'est très bien mis en avant dans le film, notamment le personnage de Karine Viard, qu'on voit prendre le RER pour aller chez elle. On imagine qu'elle habite en banlieue, assez loin. Elle est très isolée dans un petit appartement un peu sordide. Et puis on imagine aussi que ces gens qui sont pourtant à l'aise, hein, ils sont à l'aise, mais le travail prend beaucoup de place dans leur vie. Et finalement, les enfants, ils sont mis de côté, quoi. On devine où ça va aller, bien sûr. Mais je trouve que c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma actuellement et qui pose, qui à mon avis, est quand même assez, assez intéressante dans nos sociétés actuelles où on met un peu le travail en avant par rapport à d'autres choses, notamment dans des grandes villes comme Paris, où les gens n'ont plus le temps de rien, en fait. Je connais beaucoup de gens qui m'ont dit « Nous, on a quitté Paris parce qu'on n'a plus le temps pour nos enfants, on n'a plus le temps pour nous. C'est métro, boulot, dodo, en gros. »
Thomas, comme tu le soulignes, oui, le travail a une place centrale dans le film, parce que c'est vrai que ce sont des classes moyennes aisées, le couple formé par Leïla Bekhti et Jérémy El Khaïm, mais ils travaillent beaucoup pour gagner cet argent. C'est-à-dire, ce ne sont pas des rentiers, ce ne sont pas des grands bourgeois non plus. Et c'est intéressant aussi de voir cette confrontation entre le lumpen prolétariat et des classes moyennes aisées. Est-ce que ce sont des dominants, des privilégiés? Enfin, ce sont des débats qui animent actuellement la société. Et la place du travail tient une place importante dans les autres films dont on va parler. Par exemple, dans The Room aussi, dans Fury. Fury, même si pour rattacher Fury à Chanson douce, je vois la frustration est encore le thème pour moi le plus important. Et même la frustration sexuelle qu'il y a aussi dans Fury, mais la frustration tout court, hein, voilà, qui prend diverses formes dans Fury. Alors, on va enchaîner avec Fury, hein, parce qu'on a prévu de vous parler de beaucoup de films. Alors déjà, Olivier Abou, si vous écoutez cette émission depuis de nombreuses années, vous savez que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il est déjà venu dans cette émission au moment de la sortie de Territoire. Il reviendra dans cette émission. Voilà, il a fait une excellente série qui s'appelle s'appelle Maroni, les fantômes du fleuve, que j'avais dévoré sur Arte. Il avait essayé aussi un peu de faire de la comédie, là, c'était moins bien. Et il avait débuté aussi par... on l'avait découvert sur Canal+, par un projet qui avait été sélectionné. Enfin, il avait gagné un concours. Et il avait fait Madame Hollywood, qui est une sorte de giallo 2.0, qui était vraiment intéressant. Et il est revenu avec Fury. Et Fury, moi, donc, j'écoute, j'étais très, très, très enthousiaste. Je l'ai vu immédiatement, dès que j'ai pu le voir. Ça fait un bon moment là que je l'ai vu, en fait, même s'il est sorti en 2019. Et qu'est-ce que c'est que Fury ? C'est un pitch tout simple, qui, comme Chanson douce, est adapté aussi d'un fait divers réel. C'est un couple avec les enfants, enfin, un couple avec son enfant qui part en vacances et qui confie la garde de leur maison à la nounou de leur fils, qui, elle, vit en couple aussi, d'ailleurs, voilà. Et quand ils rentrent, les serrures ont été changées, les lignes téléphoniques modifiées, et en fait, ils ne peuvent plus rentrer dans leur maison. Donc, ils se renseignent et ils s'aperçoivent que, vu la date, vu les lois existantes, ils ne peuvent pas virer les gens qui sont chez eux et que la procédure va prendre un certain temps. Et ils vont être obligés d'aller loger dans un camping où, en fait, le camping est tenu par un type assez brutal, assez viril comme ça, qui exprime ses pulsions, qui n'a pas peur de son surmoi, on va dire, hein, voilà, même si c'est un peu un fou furieux aussi, hein, mais bon. Dont on va découvrir qu'en fait, c'était un amant de la femme du personnage principal, Paul Diallo, hein, qui est interprété par Adam Anian, qui est en train de devenir un acteur qui a été un très bon Guy Georges au cinéma et qui est dans l'affaire Esquin. Et qui avait été très bon aussi dans Maroni, les fantômes du fleuve, en fait. Et sa femme, c'est Stéphane Caillard. Alors, c'est Stéphane, mais c'est une femme, Stéphane Caillard. Et ça, c'est des acteurs et des actrices. Stéphane Caillard, elle jouait aussi dans Maroni, hein, parce que c'était le rôle principal. C'était faisait la flic qui enquête. Et donc, il est fidèle à ses acteurs, Olivier Abou. Et le mec un peu barré, c'est Paul Ami, hein, il s'appelle Mickey, d'ailleurs, dans le truc. Et ce Mickey... Il va délivrer, alors que comment dire, Adam Anian, c'est un personnage plutôt renfrogné, qui parle pas beaucoup, tout ça. Et il va le délivrer de ses inhibitions et en faire un être tout autre. Et il va se découvrir à lui-même. En même temps, le couple va un peu imploser parce qu'elle, on devine qu'elle est plutôt... Elle a toujours du désir pour cet ancien amant, en fait, même si c'est plus compliqué que ça. Et lui, il a toujours du désir pour elle, ça c'est sûr, mais lui, c'est un animal, quelque part, un peu dans le film. Hein. Et bien sûr, tout ça, ça va partir en sucette, dans un gros délire. Alors, moi, j'aime bien le film esthétiquement. Bien sûr, évidemment, hein, les fans de cinéma italien, donc j'aime bien c'est l'esthétique du film, les éclairages du film. Je pense qu'il aime beaucoup le giallo, notre ami Olivier Abou. Mais je trouve que la dernière partie, la montée hystérique à la fin... je sors du film un petit peu, voilà.
Oui, c'est nous, on est devant le portail qui n'ouvre pas, la télécommande marche plus et visiblement vous répondez pas à votre téléphone.
C'est notre maison.
Non, pour l'instant ils sont chez eux.
On a signé un contrat, non?
Mais quel contrat?
Soyez raisonnable et partez maintenant.
Sinon quoi?
L'audience aura lieu le 9 novembre.
Et c'est la trêve hivernale. On va payer les traits de notre maison pour loger deux squatteurs pendant qu'on vivra dans une caravane avec notre fils.
En vacances?
Pas vraiment.
Kevin?
Ouais?
On t'écoute.
Si vous faites voler, si vous êtes un faible.
J'ai pas envie.
Je pense que t'es une victime. Parce que t'as décidé de l'être.
Dis que c'est chez toi.
C'est chez moi.
C'est chez toi, voilà.
Quand on aura un problème, bah on sera bien obligé de le régler tout seul. Cette société, elle part en couille.
Vous écoutez.
Lâche-moi.
Culture prohibée.
Ne fuis pas la peur. Savoure-la. Embrasse-la.
C'est quoi le plan?
Moi, je trouve le film bien de bout en bout. À part quelques petites choses à la fin ou à... qui font très film états-unien où le méchant se relève 15 fois, etc. Mais sinon, effectivement, moi, la fin, elle est assez tendue. Et moi, c'est vrai qu'il m'en faut quand même beaucoup pour qu'un film me mettre mal à l'aise, me choque, etc. Mais là, la fin, elle est quand même vachement violente, quoi. C'est vrai que c'est extrêmement violent, mais moi, ça ne fait pas sortir du film, quoi. C'est donc, dès que je me suis dit, bon, j'accélère ou pas, là.
Qu'on soit clair, hein, c'est pas la violence qui me fait sentir du film, c'est tous ces twists à répétition, tout ça, c'est, ça prend pas, je trouve, voilà.
Bon, c'est vraiment tout à la fin, il y a vraiment des trucs à répétition, effectivement. Mais je trouve que le film, la mise en scène, elle est carrée, quoi. Il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il est plutôt bien écrit. La mise en scène est carrée. On sent effectivement, comme Coco me l'a dit, l'influence de Sam Peckinpah. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une relecture des Chiens de paille, quelque part. Hein. Le pulsionnel, tout ça, la violence. Et c'est vrai qu'on voit aussi encore cette influence du travail, quelque part, l'influence du travail sur le couple, cet homme qui est inhibé, qui n'arrive pas à vivre ses pulsions comme il devrait l'être, et qui se fait influencer par des beaufs, quoi, des gros beaufs violents qui ne connaissent pas un autre langage, quoi. Quelque chose qu'on voit déjà dans le film de Lucy Borlto, c'est cette administration aveugle qui ne peut pas contre laquelle on ne peut pas aller contre des règlements qui sont complètement bêtes et contre le personnage ne peut rien faire en fait.
Ouais, c'est vraiment ça relie pas mal en fait. Je trouve que c'est deux films qui sont assez différents dans la forme, mais qui c'est un peu ça. C'est vraiment que le personnage construit sa colère sur parce qu'il se il est confronté quelque part en fait à une administration un peu bête et disciplinée qui ne se rend pas compte quand même que on s'imagine tous laisser les clés à une personne, on revient, on n'a plus de chez soi en fait, le locataire, parce que ça part aussi d'un contrat tout à fait bête en fait. Finalement, c'est un contrat administratif qui donne le droit, puisqu'ils ont fait un contrat, une signature, comme quoi eux payaient l'eau et l'électricité. Et donc, donc ça parle aussi énormément, j'ai trouvé, c'est d'un retour à l'état primitif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, se double, en fait, la scène, la première rencontre entre Mickey et eux sont au bord de la caravane, et on voit, en fait, Mickey à un moment dans le. Comme un fantôme en fait dans la glace en fait de la caravane qui arrive. Et la deuxième rencontre avec Mickey, c'est au bout d'un moment où en fait l'acteur principal revient encore de s'être confronté à l'administration et il passe devant une petite statuette d'un black portant des bananes, quoi, une statuette de black dans une cour du camping, il la prend et la balance dans l'eau, comme s'il fallait enfouir en fait toute cette histoire qui est un peu du colonialisme, de l'esclavage, de tout ça, parce qu'il y a même, il se confronte même à ses élèves en lui disant oui, t'es un bounty, t'es noir à l'extérieur et t'es blanc à l'intérieur, comme si en fait il n'y a pas de révolte quelque part. Et cette scène-là est forte parce que finalement Mickey se trouve à l'arrière un peu comme une proie qui attend uniquement ça, en fait, parce qu'il balance ça, et on entend la voix, et ça s'allume derrière lui comme quelqu'un qui se cache, en fait, dans l'ombre, comme, en fait, un petit peu son double, au bout d'un moment, comme on peut dire, un peu, peut-être comme dans un Stephen King, ou quelque chose comme ça, disons que c'est son double, un petit peu, ce que lui ne sera jamais, parce que sa femme n'arrête pas de lui dire, il faut que tu sois violent, faut que tu reprennes possession de ta maison, faut que tu les vires, faut que tu fasses tout toi-même. Les élèves, c'est la même chose. Et finalement, ces deux scènes-là se rencontrent au final, parce que cette scène de l'eau où il balance en fait cette statuette, on la retrouve un petit peu à la fin, sans dévoiler tout le film, où l'un des protagonistes, qui est Mickey, tombe dans l'eau d'une piscine. Et ressort de l'eau, Et j'ai trouvé que c'était deux scènes, et c'est à partir de ce moment-là où le film bascule, où il arrive en fait à vraiment en fait que elle et puis même sa femme qui sont dans un qui a été un couple en crise et qui finalement acceptent en fait, ils ont eu une évolution dans leur couple. Lui s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin en fait de passer à une étape presque, disons, bronsonienne de primitive, de un petit peu, on se fait justice soi-même, on rattrape ça, et c'est ce que l'administration montre, et ce que son rôle de professeur montre un petit peu quelque part. C'est qu'il y a des lois, il faut être comme ça et comme ça, mais que ça peut être, mais ce double en fait, ce double qui sera jamais, parce que finalement Olivier Abou a déjà un petit peu créé ce genre de personnage dans le territoire, avec ces espèces de flics, ces espèces de flics militaires provenant de Guantanamo qui mettent des pseudos qui disent que c'est des étrangers qui les mettent dans des cages et tout ça. Et donc c'est des thématiques vraiment qui continuent, et finalement cette administration fait que le personnage principal devient une cocotte qui est obligée d'exposer par la violence, et Thomas l'a bien fait remarquer, comme les chiens de paille ou comme Orange Mécanique, parce qu'au bout d'un moment ils mettent des masques de cochon quoi, et tout ça, et je trouve que ce point de vue est super intéressant de la part du réalisateur Jérôme Lesthétique. C'est vrai que voilà, t'as un lieu également, le lieu de dysfonctionnement se fait en fait dans la caravane, et le lieu où lui essaye de récupérer sa maison, c'est un lieu, vraiment le lieu, le cocon, un petit peu comme l'appartement d'une chanson douce, qui est vraiment le lieu où normalement le lien familial qui devient un lieu dysfonctionnel. Quoi, même le lieu devient une part importante en fait dans l'histoire.
Il y a quelque chose avec le personnage de Mickey qui est très intéressant. Comme tu as dit, il apparaît un peu de manière fantomatique à plusieurs moments. Et quand je regardais le film, il y a un moment où il veut pousser justement le héros à devenir violent, à s'affirmer en tant qu'homme, selon les dires de Mickey. Mickey s'auto-définit comme le diable. Et ça m'a fait réfléchir à quelque chose, c'est que je trouve que le film a quelque chose de faustien en lui-même. C'est-à-dire que faux, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui, par son art, n'arrive pas à aller au-delà, qui se retrouve bloqué dans une situation et qui passe un contrat avec le diable pour pouvoir débloquer cette situation et aller plus loin. Et à travers ça, Faust va réussir à avoir tout ce qu'il voulait et atteindre des plaisirs sensibles. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ici avec notre héros qui finalement va de plus en plus se rapprocher de Mickey qui va l'emmener dans des environnements qu'il connaissait pas, dans lesquels il va prendre plaisir. Et en fait, c'est un peu à travers que tout ce que Mickey lui fait vivre qui va parvenir finalement à avancer dans sa vie. C'est-à-dire qu'au moment où l'administration l'empêche de récupérer sa maison, Mickey lui fait miroiter la possibilité de la récupérer.
Après, ouais, c'est un film vraiment très riche hein, en termes de thématiques. Comme tout le cinéma d'Olivier Abou, hein, depuis même Yes We Can, sa comédie, là, il y avait des choses, quoi, même si je trouve que c'était moins abouti. Comme on en discute depuis tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Il y a même l'histoire de l'injonction à la virilité. Il a aussi une façon très intéressante d'aborder les phénomènes aujourd'hui qu'on appelle liés aux cultural studies, les gender studies et tout ça. Enfin, il a une façon de le faire qui est très, très, très intelligente. Hein. Moi, je trouve que c'est un cinéaste très sous-estimé, Olivier Abou. Même si j'ai des petites réserves sur le final, ça reste quand même un film qui m'a vachement plu. Hein. Je trouve que c'est un des meilleurs films français de genre de ces dernières années. Et tout court, d'ailleurs. C'est un film quand même... quand on le voit, on ne l'oublie pas, quoi. C'est vraiment un film marquant, quoi. C'est un film marquant. C'est aussi un film sur la crise du couple. La crise du couple qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans The Room, par exemple, de Christian Volkmann, qui est un autre des films dont on voulait parler. Écoutez Culture Prohibée spéciale cinéma de genre français. Christian Volkmann, on l'attendait parce que c'était l'auteur du fabuleux polar de SF animé Renaissance. Je pense que ceux qui connaissent ce film s'en rappellent, hein, sorti en 2006, super film d'animation, scénarisé entre autres par Jean-Bernard Pouy, Patrick Reynal. Et donc on l'a attendu quasiment 15 ans, hein, 14 ans, avant qu'il revienne au cinéma en 2019, pour son deuxième long métrage, qui est donc un film totalement quatrième dimension, Rod Serling, dans cet état d'esprit. Et qui, c'est pareil, n'est pas un film sans défaut, hein, je le dis tout de suite, hein, mais je trouve est un film intéressant. Donc il y a un couple qui est formé par Olga Kurylenko et Kevin Janssens. Et c'est un couple d'urbains, quoi, qui de New-Yorkais, qui ont la trentaine. Alors lui, c'est un dessinateur de BD, mais on devine qu'il ne travaille pas beaucoup. Elle, on comprend à un moment qu'elle fait des traductions, qu'elle est traductrice, mais que ça ça marche pas d'enfer non plus. Et ils s'installent dans une demeure assez majestueuse, qui, évidemment, ils ont eu pour pas cher. Ils découvrent qu'il y a une sorte de malédiction, enfin, ils ne savent pas trop. Et puis, petit à petit, ils vont découvrir que dans cette maison, il y a une pièce. Et que dans cette pièce, quand on rentre dans cette pièce, si on désire quelque chose, on le demande à la pièce, et la pièce vous donne cette chose. Alors, ça commence par une bouteille de whisky, et puis petit à petit, ça va aller crescendo. Et on a le couple donc, qui va s'adonner, qui va tomber dans la luxure, qui va s'adonner aux joies du capitalisme rampant, parce que bon, tous les films dont on parle, là, en plus, ils parlent de ça, de lutte des classes, de critique du capitalisme, de critique du consumérisme aussi, quelque chose qu'on retrouve pas mal dans The Room. Et puis, un jour, ils vont s'apercevoir d'un truc, c'est que tout ce qu'on a demandé à cette pièce ne peut pas sortir de la pièce. Voilà. Il va se passer un truc, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un des personnages qui va demander quelque chose, qui va faire basculer l'intrigue. Moi, le film, j'avoue, hein, quand... Moi, ça m'a bien plu comme film. Hein. Je trouvais la mise en scène assez maîtrisée. J'ai eu très peur. Normalement, lors du final, j'ai eu peur parce que je me suis dit non, pas ce final-là. Et bon, il y a un élément de décor qui bouge et on se dit oh, ouf, ça va. Il nous fait pas une fin moralisatrice parce que j'ai eu peur de ça. Mais après, bon, c'est aussi un film qui est pas sans défaut. Hein. Attention, hein, c'est un film où parfois je pense que ça aurait fait un meilleur moyen métrage, voilà, qu'un long métrage en fait. Et je trouve l'idée super. Et je trouve le traitement intéressant, mais pas complètement abouti. Et on sent que c'est un film qui l'a mûri longtemps, la gestation a été longue. On pense que c'est lié à des éléments personnels aussi qu'il a vécu, des choses comme ça. Bon, et tout fonctionne pas dans le film. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même un film intéressant dans la manière dont il aborde en quelque sorte les thématiques liées, on peut dire, pas une maison hantée, mais enfin, c'est un film de maison maléfique, quoi, quelque part. Il y a quelque chose dans cette maison, voilà. Et moi, j'aime bien cet aspect quatrième dimension, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même un film intéressant. C'est que je trouve que c'est quand même un film qui compte ces dernières années dans le cinéma de genre français. Je trouve que c'est une proposition de cinéma, moi, qui n'est pas dénuée d'intérêt.
Il est intéressant, mais j'ai été moins emballé que toi. C'est-à-dire que le pitch est intéressant. Tu parles que rien ne peut sortir de la pièce, mais en fait, c'est de la maison dont rien ne peut sortir. Et c'est un pitch intéressant, mais je trouve qu'il manque un peu de rythme à un moment. J'ai l'impression qu'il fait un peu traîner les choses en longueur. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est en fait, il aurait plus mérité à être un moyen métrage qu'un long métrage. Y a un élément déclencheur qui arrive brutalement, et en fait, j'arrête pas de me repenser de la façon dont ça se déclenche et de la façon dont il raconte l'histoire. Et en fait, je vois pas d'autre façon d'introduire cet élément, donc je suis assez embarrassé parce que je pense qu'il a besoin d'un rythme assez différent, et en même temps, j'ai un peu du mal à savoir vraiment ce que je change dedans. La fin est vraiment intéressante, et j'aime beaucoup en fait, parce qu'on sait clairement vers quoi on se dirige, mais une fois qu'on y est, il arrive quand même à nous surprendre, et ça, c'est vraiment bien joué de sa part.
Je trouve que c'est un film qui parle vraiment de l'acte de création. Finalement, on est encore une fois dans un lieu, une maison. Un peu comme La Maison du Diable, comme les grands films du cinéma fantastique où t'as un lieu comme Suspiria, comme tout ça, où il va se passer des choses, où t'as de multiples pièces où tu peux aller avec des... Mais un film, voilà, je trouve qu'un film comme Darren Aronofsky, putain, j'ai du mal à le dire, pourtant je suis pas sous, mais qui ont parlé déjà sur Mother, sur la difficulté de l'acte, de l'acte de création et de tout ça, puisque lui en fait est peintre, et là en fait lui, elle le dit dans le couple qui est aussi en crise et en fait qui peut pas avoir d'enfant, tout ça c'est on le voit lui assez souvent, même il y a des dialogues entre eux, on va dire une fois que t'es dans ta peinture on peut plus te parler, t'es ailleurs, et voilà, et cette pièce permet en fait parce qu'il ne vit pas encore de ses toiles, parce que cette pièce permet de lui quoi. Lui permet, leur permet d'avoir tout, quoi. Donc ils rentrent, ils disent je veux la peinture d'un Van Gogh, il se ramène avec sa peinture d'un Van Gogh, etc. Et c'est assez là le couple qui est en crise, c'est pareil, elle ne peut pas avoir d'enfant pour de multiples raisons, donc la chose où qui va faire basculer aussi le film dans autre chose, c'est celui d'avoir un enfant. Et on peut pas dévoiler plusieurs choses du film, mais ça m'a fait un petit peu penser à cette peinture du truc grec mythologique, parce que finalement cet enfant va grandir et tout ça, c'est un peu le tableau en fait de la mythologie grecque qu'on retrouve aussi avec Karine Viard à un moment en fait dans Chanson douce, où elle mord les enfants, où elle mord l'un des enfants, où elle leur fait mal. C'est un peu cette peinture, je crois que c'est de peinture grecque, je sais plus quoi, de Goya, je crois que c'est Chronos qui dévore un de ses enfants ou quelque chose comme ça. Ici, le fils va se retourner contre ses parents parce qu'il va y avoir quelque chose voilà, qu'on ne peut pas trop dévoiler du film, mais un peu comme Chanson douce. En fait, le but, c'est que le couple ait des enfants pour continuer que la nounouresse. Donc elle veut absolument ça, et on la voit mordre les enfants et tout ça. Et je trouve que c'est toujours des thématiques qui continuent du cinéma fantastique, hein. Mais comme le disait après, je trouve que le film bascule dans quelque chose qui devient gênant un peu. Moi, j'ai trouvé que ça basculait dans plusieurs temporalités, et le montage et tout ça faisait que c'était pas... Il y a des moments super compréhensibles, et jusqu'au final où on a pu en parler avec Jérôme, où on se dit, quand même, voilà, ils ont fait tout ça, mais... je peux pas tout dévoiler, mais moi, c'est un film que j'ai trouvé bon, mais un peu pareil. Dans l'idée, il y a peut-être déjà des films comme The Mother, le Aronofsky, où en fait, qui ont déjà abordé peut-être d'une meilleure façon. Bon, après, c'est un film qui pose plein de questions, puisqu'on en parle. Mais le final me laisse un petit peu sur ma faim, un petit peu comme Jérôme, un peu comme vous tous.
Aussi qu'on cause d'une vraie surprise, moi. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. Pareil, pas le film du siècle. De toute façon, dans tous les films dont on a parlé, là, à part Fury, qui se détache quand même du lot pour moi, parce que Fury a des qualités autres quand même. Hein. Il pose plein de questions. Enfin, voilà, je trouve que c'est un film qu'on peut voir, revoir et qui questionne toujours autant. Il est au-dessus du lot pour moi, voilà, dans la sélection de films qu'on a faite, là. Mais il y a un film qui m'a, moi, vraiment... emballé à ces derniers mois là, dans ce que j'ai vu du cinéma français. C'est un film qui s'appelle Un vrai bonhomme, un film de Benjamin Parent. C'est un premier long métrage, mais c'est pas un inconnu, hein. Il a fait beaucoup de scénarios, Benjamin Parent. Il a travaillé entre autres sur les scénarios de la web série du talentueux, et c'est un euphémisme, Riyad Satouf, hein. Cette web série s'appelle Mes colocs. Alors, le film débute par un accident de voiture. Enfin, le film débute par une famille. Voilà, il y a deux ados. Il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Il a la majorité, forcément, puisqu'on voit après qu'il conduit la voiture. Le père, c'est Laurent Lucas. La mère, c'est Isabelle Carré. Alors, Laurent Lucas, un jour, il faudra aussi qu'on fasse une émission sur Laurent Lucas. C'est quand même l'un des types qui a une carrière parmi les plus intéressantes dans le cinéma de genre en France. Voilà, il est de tous les bons coups. Y compris à la télé, d'ailleurs. Il est de tous les bons coups. C'est un mec vraiment... un acteur vraiment très, très intéressant. Et là, en fait, il est le papa de ses deux enfants. Il y en a un qui est plus jeune, qui est un jeune ado, qui va rentrer au lycée, voilà. Et il y en a un qui est un lycéen, qui est le capitaine de l'équipe de basket, qui est un beau gosse, qui est un charmeur, voilà. Et qui est un peu plus viril, quoi. Voilà, qui est un peu plus... L'autre est plus geek, le plus jeune, et lui, il est un peu plus viril. Et ils partent tous les deux se promener en voiture, voilà, le soir. Et puis, ils ont un accident. Et on voit le grand frère qui sauve le petit frère, dans un très beau plan d'ailleurs esthétiquement. Le plan est assez beau, hein, vraiment très beau esthétiquement parlant. Donc ce petit frère, c'est Tom, qui est interprété par Tom Hagi. Et le grand frère, Léo, c'est Benjamin Voisin. Voilà. Et Tom va donc rentrer au lycée. Et pour s'intégrer, il compte sur l'aide de son grand frère Léo. Et Léo, qui veut faire de lui un vrai mec, comme il dit, voilà, un vrai bonhomme. Mais l'omniprésence de son frangin Léo va vite se transformer en une sorte de présence toxique, en fait, pour ce petit frère, et qui va essayer progressivement de s'éloigner un peu de ce grand frère, en fait, d'en faire le deuil, hein, parce qu'on comprend très vite, au bout de 2 minutes de film, qu'il est décédé, hein, son frère, et qu'il n'y a que lui qui le voit. Voilà. Donc, ça donne un petit cachet fantastique, hein, parce qu'il y a ce fantôme qui l'accompagne tout le temps. Et il veut aussi conquérir la belle Clarisse, qui est interprétée par Tasnim Jamlaoui. Donc, ça donne un film. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas un truc qu'on voit souvent dans le cinéma français, qui est à la fois un film fantastique, qui est aussi une comédie romantique, qui est un genre en soi, hein, qu'on pratique beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. Hein, parce que, bon, en France, c'est vraiment pas très glorieux, les comédies romantiques qu'on torche. Et là aussi, c'est un euphémisme, torché. C'est à la fois du teen movie, du college movie, qui sont plein de genres, en fait, très anglo-saxons, en fait, qui s'entremêlent dans ce film, qui, malgré tout, reste très français aussi, hein, dans ce que ça raconte. Et un film qui a une belle photo. Hein, je trouve que la mise en scène est plutôt bonne, sans être géniale non plus, mais plutôt bonne. C'est bien troussé. Il y a quelques beaux plans par moment. Il y a vraiment des beaux plans, des plans assez saisissants. Moi, ce plan de l'accident, je le trouve vraiment très beau, là, ce plan, quand se retrouve à la sortie de la voiture. Voilà. Et moi, c'est un film c'était une bouée d'air frais. Bon, c'est-à-dire qu'après Fury, Chanson douce et tout, ça changeait un peu. Après The Room, c'était un peu plus gay, quoi, quand même, malgré tout, même si ça parle de choses graves. Et j'ai trouvé que c'était un film très intéressant et je pense que ce cinéaste, c'est un cinéaste à suivre.
Comme tu le dis, Jérôme, c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Après toute cette série de films, bah, c'est assez amusant. Je suis un peu comme toi, c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui daterait en fait des années 80 et qui aurait pu être réalisé par un mix entre John Hughes et Harold Ramis, dans le sens où ça fait peut-être une petite un petit conte en fait sur la pas un conte j'ai des bêtises mais c'est vraiment sur le deuil de quelqu'un qui se reconstruit et qui a comme tous les enfants un ami d'ailleurs il y a plusieurs séquences qui se répondent c'est que le copain de l'un des deux frères a eu lui un ami imaginaire qui était un panda je crois ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le film montre aussi en fait la difficulté de se construire étant adolescent et puis c'est la reconstruction vraiment d'un enfant après la perte de quelqu'un, l'isolement que tu peux avoir, tout ça, tu te retrouves dans un lycée, dans un nouveau monde, dans quelque chose, et c'est vrai que c'est et puis un petit peu comme tout ce qu'on a pu voir finalement auparavant, parce que c'est toujours la mèche, disons la deuxième personne comme Mickey dans Fury, la nounou dans Chanson douce, la pièce pour la maison. Et ici, c'est, disons que c'est à la fois le deuil et cette personne imaginaire à qui va parler le héros qui est pendant tout le film. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu rafraîchissant dans le cinéma français actuel parce qu'il arrive à toucher à tous les genres et à parler sur la difficulté de se construire durant l'adolescence et en plus en ayant un drame derrière lui. Et voilà quoi, c'est vraiment moi c'est vrai que c'est grâce à toi Jérôme que je l'ai découvert, mais voilà quoi, j'ai vraiment bien aimé. Mais si on entre dans un autre fantastique un peu social aussi et tout ça, mais super intéressant.
Nous n'aurons pas le temps de parler de tous les films dont on voulait parler. Bon, il y avait le Zombie Child de Bertrand Bonello, qu'on vous conseille, donc vous l'avez compris. La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher, qui est un peu plus vieux, qui est de 2018, qu'on vous conseille également. Mais il y a un dernier film où on est quand même encore un peu là sur cette idée de passion amoureuse, sur cette idée de voilà, qui est pour moi une sorte de version enfantine des Tueurs de la Lune de Miel, voilà. Avec c'est un film de Fabrice Duvels, hein, coproduction franco-belge, et qui raconte l'histoire d'un petit gamin de 12 ans, Paul, qui est un petit garçon solitaire, hein, qui est interprété par Thomas Gioria, et qui rencontre donc Gloria, une adolescente schizophrène, qui est magnifiquement interprétée par Fantine Ardouin. Cette gamine, elle a un talent assez dingue. Et c'est une nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Et elle a été placée là par son oncle, Laurent Lucas, qui est toujours dans les bons coups, Laurent Lucas, voilà. On ne le voit pas beaucoup dans le film. Elle a été placée là par son oncle, parce que visiblement, elle a fait quelque chose de très grave, on ne sait pas quoi. Et le petit garçon, il va tomber amoureux fou de cette adolescente. Il faut dire que la gamine a un charme fou. Il va tomber complètement amoureux de cette gamine. Et il va s'engager avec elle. Ils vont fuguer dans une odyssée meurtrière, hein. Voilà. Ils vont traverser comme ça les Ardennes, quoi. Voilà. Et ça donne un film assez solaire, esthétiquement vachement intéressant. Bon, moi j'aime bien Fabrice Duvels, hein, voilà, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un film vraiment particulier et singulier sur la passion amoureuse. Parce que c'est ce gamin a très vite compris qu'elle est folle, en fait, et que c'est une psychopathe, cette gamine, quoi. Il le comprend très vite, hein, ça va très vite. Hein, un quart d'heure de film, il l'a compris, on l'a compris, tout le monde l'a compris, quoi. Voilà. Mais il reste avec elle, il l'aime, en fait, vraiment. C'est un amour comme ça, presque pur, on va dire ça comme ça. Alors qu'elle, en fait, elle est vraiment dingue, quoi. Et ça donne un film qui se tient bien de bout en bout et qui est assez touchant aussi par moments et qui a des choses très intéressantes en termes esthétiques. Et en particulier, j'aime bien, moi, ces deux esthétiques et ces deux mondes qui se rencontrent, le monde des adultes, le monde des enfants. On a l'impression qu'eux vivent un peu dans un monde parallèle. De temps en temps, ils croisent des adultes, quoi, mais c'est de temps en temps. Voilà. Et d'ailleurs, on ne met pas trop qu'ils les croisent parce qu'elle n'est pas très sympa avec les adultes, hein, la petite. Et voilà. Et ça donne vraiment un film très particulier, une sorte comme ça de voyage, quoi, d'une invitation au voyage, à ne pas mettre devant tous les yeux, mais une invitation au voyage assez particulière.
Pour ma part, j'ai adoré. Je trouve que Fabrice Duvels, c'est dans la continuité un petit peu de son Alléluia, qui est, t'as tout à fait raison. Jérôme, hein, c'est une adaptation, encore d'un fait divers. Et on a l'impression, et retrouve, je crois que la petite s'appelle Gloria aussi. Il me semble, oui, c'est ça, Gloria, comme dans Alléluia, où l'actrice en fait s'appelle quoi, le rôle qu'incarne l'actrice s'appelle Gloria, avec Laurent Lucas qui est encore là d'ailleurs, dans les beaucoup, comme dirait Jérôme. Mais c'est assez amusant en fait, ce qu'il fait, c'est on a l'impression qu'il est entre le drame un peu à la Cassavetes, avec une femme sous influence, où Peter Falk est amoureux de sa femme et lui laisse passer. Il sait très bien qu'elle débloque et tout ça, mais par amour, voilà, quoi. Et il laisse faire plein de choses. Et ce qui est amusant, parce que Jenna Roland reprendra un rôle qui d'ailleurs s'appellera Gloria également. Et on retrouve cet aspect un petit peu. Dans les films de Tarkovsky, un peu métaphysique, avec quelque chose aussi de Lars von Trier un petit peu derrière, où finalement les deux enfants vont réussir à s'échapper de l'asile psychiatrique en passant par une forêt toujours en ombre et lumière, où vraiment on sent la matière, il y a un travail sur le son qui est énorme, sur la lumière qui est énorme. Il y a une grande place en fait au niveau du son et du cadre. On a parfois l'impression de tableau, mais finalement ils vont s'embarquer sur. Alors ils suivent au bout d'un moment un rail et la fille préfère être du côté du fleuve, comme si un peu tout ce qui est métaphorique, genre de descendre du Styx, où c'est eux finalement qui vont rencontrer tout un tas de gens, et à chaque fois ça va mal se passer en fait.
C'est la nuit du chasseur aussi, hein. Il y a ça dans le film, hein, aussi, hein.
Exactement, il y a de ça également, mais le fond, c'est vrai qu'il y a quand même ce gamin qui rencontre cette fille et qui a totalement cet amour fou en fait pour elle. Je le recommande totalement et c'est autre chose. Par contre, c'est vrai qu'on est dans autre chose que Calvaire, dans Alléluia, même s'il y a des déchaînements de violence par moment, mais voilà, on reste... Il pousse le curseur et par le regard de l'enfant, comme tu dis, hein, un peu entre la nuit du chasseur et plein de choses. Et c'est super beau.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Christophe Cosence, dit Coco, le boss d'Ecstasy au film. Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.